Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Estelle Midi, à la radio, bien sûr, sur RMC, à la télé, sur RMC Story, canal 23. On est très heureux de démarrer cette nouvelle semaine avec vous et avec Rémi Barré. Salut Rémi.
Salut Estelle, bonjour à tous.
Perico Légas, journaliste à Marianne, est là aussi. Ça va Perico?
Je ferai face à la puissance de vos questions.
Oui, mais elles sont très très puissantes.
C'est pour ça que je...
et on n'est pas dans un programme très très gay aujourd'hui, vous allez voir, c'est pas bon, c'est un peu lourd. On est avec Laure Closier, journaliste à BFM Business. Ça va Laure?
Ça va très bien.
Bientôt à la tête de la matinale de BFM Business.
Bravo. Je me prépare.
Bon, bravo Laure, bravo. Et puis nous sommes avec le journaliste média, mais pas que, Thierry Moreau. Ça va Thierry?
Ça va très bien, question lourde, mais on va essayer de faire ça dans la bonne humeur.
Bien sûr, même. Évidemment, comme à chaque fois. Au sommaire aujourd'hui dans Estelle Midi, la grogne qui monte partout en France. Les appels à la grève se multiplient. Aucun secteur n'est épargné pour obtenir des hausses de salaire. Êtes-vous prêt vous aussi à descendre dans la rue? Dites-nous ce que vous en pensez au 3216 ou sur l'application RMC, rubrique Direct Studio. À midi et demi, faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française? À 13h, Engie, EDF et Total Energy qui appellent les Français à réduire immédiatement leur consommation d'énergie pour éviter un hiver sous tension. Est-ce que c'est indécent? À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. À 14h, le plafond de hausse des loyers limité à 3,5% cette année, alors que les associations de locataires réclamaient un gel des prix. Bonne ou mauvaise mesure? Il y aura les immanquables vers 14h30, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. Et on terminera avec le quiz et un tout nouveau cadeau à gagner.
Exactement, à gagner. Un séjour d'une semaine pour 4 en location dans l'une des résidences Lagrange Vacances, que vous soyez mer, montagne ou campagne. Il y aura forcément un lieu pour vous. Pour jouer, vous appelez le 3216, c'est la touche 4, ou alors vous envoyez le mot quiz par SMS au 73216. Quiz par SMS au 73216.
RMC Estelle Midi.
Il est midi 6, vous êtes sur RMC et on va démarrer avec l'actualité du jour et c'est la grogne qui monte partout en France. Aucun secteur n'est épargné, routiers, salariés, SNCF, dockers. Les appels à la grève se multiplient pour réclamer des hausses de salaire et c'est tout de même, Rémi, très rare à cette période de l'année.
Exactement, puisqu'en général ça se passe plutôt, on le sait, à la rentrée de septembre, la rentrée sociale. Mais c'est déjà en cours, dernière en date de ces événements. Le bras de fer entamé ce matin par les chauffeurs routiers, les syndicats du secteur appellent toutes les branches du métier à se mobiliser pour réclamer face à l'inflation, une hausse des salaires qui atteignent difficilement le SMIC en moyenne, selon eux. Des barrages filtrants avec distribution de tracts sont organisés depuis ce matin à l'entrée de plusieurs zones industrielles, provoquant de gros bouchons alentour. Dans le domaine du transport toujours, il y a également une grève annoncée le 6 juillet prochain à la SNCF, à la veille des vacances scolaires, avec les mêmes revendications, une hausse urgente des salaires pour faire face à celle des prix. Même chose, tu l'as dit, chez les dockers. Dans le domaine du transport encore, c'est dans le transport aérien avec des grèves chez Ryanair ou EasyJet, mais aussi dans les aéroports où s'ajoutent en prime des revendications sur les manques de personnel. Partout dans le pays, les conflits se multiplient, comme le démontrent les mouvements de grève de ces derniers jours. À titre d'exemple, aux urgences de nombreux hôpitaux, chez les éboueurs, à Paris, à Strasbourg, ou encore, et c'est un exemple que j'ai trouvé ce matin, dans les crèches dans le Vaucluse, comme si donc la rentrée sociale cette année avait 2 mois d'avance.
Est-ce qu'il faut s'attendre à une implosion finalement Péricolégas beaucoup plus vite que prévu? Parce qu'on parle beaucoup de la rentrée, mais finalement ça commence beaucoup plus tôt.
Tout d'abord, faisons pas semblant de découvrir comme si c'était un phénomène récent. Nous savons que la...
Ah non, on s'y attendait, mais
oui,
pas maintenant.
Oui, enfin la cocotte est dans la pression monte depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, avec la conséquence du Covid, la guerre en Ukraine. On voit bien qu'il y a des secteurs de cette société qui sont à bout. Qui sont au bout du rouleau, sincèrement. Et puis nous le constatons.
Mais on a l'impression que c'est tous les secteurs de la société.
Souvent la fracture sociale, on en entend parler, on la voit pas. Je suis sûr que nous cinq, nous rencontrons des gens. Moi, ce qui me choque le plus, et on en a souvent parlé sur ce plateau, et c'est des gens qui arrêtent leur contrat de travail parce que le fait d'aller travailler en payant le carburant est plus cher que. La masse de cette désolation, de cette crispation, de cette désespérance, enfin, inévitablement, on ne sait pas sous quelle forme, voyons passer demain. J'ai 63 ans, ça fait 50 ans que je grandis avec la rentrée sera chaude. Il s'avère qu'on a eu un épisode qui s'appelle les Gilets jaunes, qui n'était jamais survenu avant, à part mai 68, pour d'autres régions qui étaient sociétales, comme on dirait aujourd'hui. On sait qu'aujourd'hui, la société française peut, à un moment donné, un secteur, se manifester, crier sa souffrance et sa détresse de façon véhémente, voire violente. Les conditions aujourd'hui de la détresse sociale et économique sont infiniment plus lourdes, plus douloureuses que ce qu'elles étaient en novembre 2018. Donc, le gilet, je ne connais pas la couleur du gilet, je sais qu'il y aura du gilet. Est-ce qu'il sera noir, est-ce qu'il sera rouge? Mais je pense qu'inévitablement, alors, il y a encore l'été pour prendre des mesures. Les mesures lesquelles? Un gouvernement qui arrive pas à se former sur une majorité qui n'est pas stable. Disons que la météo est pas bonne du tout.
Elles sont légitimes, ces revendications, Laure Clauzier.
Les revendications d'augmentation de salaire sont évidemment légitimes. Après, moi, je suis pas sûre qu'on soit dans la même situation que les Gilets jaunes, et je suis pas sûre que la rue soit aujourd'hui vue par l'ensemble de la société française comme un levier d'action et quelque chose qui va changer la situation de chacun. On l'a vu pendant les dernières manifestations des soignants, il y avait très peu de monde dans la rue. Les gens ne se bougent plus, comme si l'État ne pouvait plus rien faire pour personne et que ça ne servait à rien de perdre une journée à se mobiliser pour aller faire une grève ou une manifestation. Aujourd'hui, la seule chose qui peut marcher, c'est les discussions à l'intérieur des branches et à l'intérieur des entreprises. Donc, aller manifester, j'entends les appels à la grève, etc., je ne sais pas si ça va fonctionner, si les gens croient encore que c'est comme ça qu'on obtient des choses. Il faut, à l'intérieur des entreprises, manifester soi-même pour son augmentation de salaire. Il y a plus de possibilités de faire changer sa propre vie auprès de son propre patron qu'auprès de l'État. Aujourd'hui, c'est lui qui a le levier sur votre vie et sur votre pouvoir d'achat.
Laure, on parle pas de ça, je peux juste...
On parle de quoi?
On n'est pas en train de dire ce qu'il faut faire. On te dit ce qui va se passer.
Oui, moi, je suis pas d'accord avec toi.
Non, mais là, tu me parles ça de revendications. Je parle des gens qui vont aller tout péter parce qu'ils en ont ras-le-bol. Ils sont pas dans la saison de savoir si le gouvernement peut ou pas. C'est des gens qui sont à bout. Ils vont tout péter. Ils sont pas dans la négo, ils sont pas dans la revendication. Ils sont dans le dans l'exaspération.
Ce qui explique Laure, c'est que la solution, d'abord, ça ne va pas forcément peut-être mobiliser beaucoup. Ça, c'est la première chose qu'elle a dit. Et deuxièmement, c'est peut-être pas non plus la solution. Aujourd'hui, on voit bien que, d'abord, il y a une attente des mesures du gouvernement. Il y aura déjà une première mesure du gouvernement qui aura sans doute prolongé les boucliers, etc., pour préserver un certain nombre de pouvoirs d'achat. Mais surtout, comme l'a dit Laure, il y a des leviers qui dépendent pas du gouvernement. Aujourd'hui, il y a 71% des branches professionnelles dans lesquelles les premières grilles de salaire sont en dessous du SMIC. Donc le SMIC, il est à 1 300 € net aujourd'hui, 1 302 € net. Oui. Même si le gouvernement l'augmente, ça ne réglera pas le problème branche par branche d'un certain nombre de débuts de grilles qui sont en dessous du SMIC. On l'a bien vu.
Mais ça ne réglera pas l'inflation.
Au moment de la restauration, on avait vu que déjà les 15% d'augmentation ne faisaient que rattraper. Donc de toute façon, ça se fera branche par branche. Et donc, je rebondis sur ce que dit Laure, le rôle des syndicats va être essentiel dans les discussions branche par branche. Et il faut que là, les corps intermédiaires qui ont été délaissés pendant le premier quinquennat par Macron devraient à nouveau retrouver un peu de vigueur et du rôle pour essayer de négocier. Et après, moi, je sais qu'on va voir Fabien de Villedieu tout à l'heure au téléphone. Quand j'entends Fabien de Villedieu hier sur BFM nous dire « Eh ben le 6, il y a une négociation sur les salaires. Eh ben justement, on a choisi ce jour-là pour faire grève. » Là, je trouve ça honteux parce que on ne fait pas grève un jour où on négocie.
Tu mets la pression.
On négocie.
Tu mets la pression. C'est pour mettre la pression.
On négocie avec un pistolet sur la table.
Bah, oui.
Je suis désolé.
C'est nouveau parce que
on négocie. Si les négociations n'aboutissent pas, on fait grève.
Parce qu'ils savent
c'est ça.
Oui, mais parce qu'ils savent que ça aboutira pas.
2022.
Je suis désolé.
Je suis pas d'accord. T'es en 1972, toi.
Et on part pas du tout dans ce sens-là, puisque là, on sait qu'Emmanuel Macron a proposé aux partenaires sociaux, et notamment donc aux syndicats, de se réunir, de faire une concertation générale. La CFDT a accepté, mais les autres syndicats ont refusé. Donc on part pas du tout...
Vous étiez majoritaire dans plein de secteurs.
Ah oui.
Alors, je voudrais qu'on prenne Hicham, qui nous a appelé au 3216 et qui est routier international. Bonjour Hicham.
Bonjour l'équipe, bonjour.
Eh ben, merci d'être avec nous, Hicham, dans Estelle Midi. Hicham, on voit qu'il y a des blocages routiers un petit peu partout. Est-ce que vous allez y participer?
Ah, malheureusement, moi, je peux pas, parce que nous, c'est une petite structure, On a 2-3 camions, donc je peux pas me permettre de faire la grève. Sinon, je vais faire couler mon patron. Et ça va pas le faire. Mais par contre, je les soutiens, quoi. Je soutiens à 200%, quoi. Parce que nos salaires, c'est trop bas, en fait.
Vous êtes à combien, Hicham?
Alors, moi, je suis à 10,87 de l'heure.
Ah oui, c'est même pas un babysitting d'accord, avec un étudiant, voilà. Quoi. Ah oui, ok.
Donc, il y a eu des augmentations récentes, mais comme mon patron n'est pas signataire, bah, voilà, je suis toujours à 10,85 de l'heure.
Ça donne quoi
et votre
moi.
Patron, vous allez voilà. Donc, vous êtes dans le privé, hein, Hicham. Donc, après, dans le privé, c'est des négociations de gré à gré. Mais est-ce que vous êtes allé voir votre patron pour lui dire que bah, vous n'en sortiez pas?
Ah oui, mais moi, je lui ai déjà dit. Mais bon, malheureusement, lui, il ne peut pas faire autrement. Et entre deux, voilà quoi. Je ne fais que subir. Voilà, semaine par semaine. Je fais les 200 heures minimum par mois. Ouais. Et voilà quoi, on n'y arrive pas. Quand vous voyez que les frais de route... Parce que nous, bon, c'est un peu spécial, hein. Mais nous, on a des frais de route. Quand vous voyez que les frais de route pour un repas ne vous suffisent même pas pour prendre un repas dehors. Et c'est là où vous voyez tous les chauffeurs en bord de route en train de manger dans leur camion. Parce que justement, ils ne peuvent pas se permettre non plus de...
Il y a une dégradation de votre métier, Hicham ?
Ah, de jour en jour. Je le vois de jour en jour. D'ailleurs, moi, voilà, j'ai failli raccrocher il y a quelques temps, là. Et voilà, je vois notre boulot, il est en train de se dégrader, mais de jour en jour,
Est-ce que vous avez regardé les autres boîtes de logistique, s'il n'y avait pas des salaires un peu plus élevés? Parce que là, vous disiez que votre patron n'avait pas signé la convention pour augmenter les salaires. Est-ce qu'il ne faut pas juste changer d'employeur?
Ah oui, c'est très facile à dire ça. Ce n'est que des mots, mais après, pour le faire, voilà. Ah oui. Moi, je sais qu'il y a une famille derrière, je suis marié, j'ai deux enfants. Moi, je parle pour mon métier particulièrement. Hein. Voilà, il y a nos femmes qui sont à la maison toutes seules, qui gèrent la baraque, qui gèrent les enfants. Voilà, tous les sacrifices qu'on fait, je veux dire, voilà, pour mon salaire, je pense qu'il manque un tout petit peu, quoi.
Bah merci beaucoup Hicham, en tout cas on vous souhaite bon courage évidemment pour la suite. Merci de nous avoir appelé au 32-16. Tiens, on est avec Fabien Villedieu, vous en parliez tout à l'heure, Thierry Moreau, qui est au conseil d'administration de la SNCF pour Sudrail et qui est un habitué l'Estelle Midi. Bonjour Fabien.
Bonjour.
Vous avez sorti les piquets, Fabien?
Bah oui, sûrement, à partir de mercredi 6. Oui.
Et Fabien, Thierry Moreau disait il y a quelques instants qu'en fait lui était très choqué par le fait que il y avait des négociations qui s'ouvraient entre les syndicats et le patronat de la SNCF le 6, et que vous alliez quand même faire grève alors que les négociations ont même pas démarré. C'est un peu étrange quand même.
Bah heureusement qu'il fait pas partie d'une organisation syndicale, parce qu'une organisation syndicale qui négocie
ça risque
à froid, vous avez rien. Voilà. Ça fait des mois et des mois qu'on discute avec la direction, qu'on lui explique, parce que les gens, ils ont l'image qu'à la SNCF, on est comme les cow-boys, on tire la grève tous les 5 minutes. C'est pas vrai.
Ça non, tous les jours de vacances.
Oui, c'est ça.
Tous les week-ends qui comptent.
La loi de l'emmerdement maximum.
Voilà, mais ça, c'est les préjugés des gens, mais
alimenter le
vécu aussi.
Bah, vous savez, il n'y a jamais eu aussi peu de grèves en France, et particulièrement à la SNCF. La dernière fois qu'on a fait grève, d'abord, c'était une partie des salariés, c'était au mois de décembre, c'est-à-dire il y a 6 mois. Donc, je trouve que pour des gens qui font grève tout le temps, si c'est une grève tous les 6 mois, ça va. Par contre.
Mais c'est énorme, une grève tous les 6 mois.
C'est énorme, mais pourquoi il n'y a pas de problème de salaire en France?
D'accord, mais enfin, personne ne fait grève tous les 6 mois, Fabien.
Il y a d'autres pays européens où il y a moins de grèves et des négociations et tout autant de problèmes de salaire.
C'est pas vrai, en Grande-Bretagne, ils ont fait grève 3 jours cette semaine, donc vous n'avez pas de bol.
Et depuis quand ils n'avaient pas fait grève depuis 40 ans? Mais c'est un mauvais exemple, ils n'avaient pas fait grève depuis 40 ans, Fabien.
Ils ont fait énormément de grèves, notamment les cheminots dans le ferroviaire. Donc si vous pensez que tout se passe bien, bon, bah, effectivement,
c'est pas ce qu'on dit.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat à la SNCF comme ailleurs? La réponse est clairement oui.
Oui, je suis d'accord.
Aujourd'hui, les discussions font avancer des propositions. Franchement, la SNCF nous aurait proposé des augmentations de salaire, mais on n'aurait pas fait grève.
Ah, bah, c'est sûr.
Bah, je vous espérais, oui.
Voilà. Ça, c'est sympa. Parce que là, aujourd'hui, on se retrouve à avoir une SNCF qui fait des bénéfices. Je rappelle qu'en 2021, la SNCF a fait 890 millions de bénéfices et qu'en 2022, elle va faire plus d'1 milliard de bénéfices. Voilà.
Parce que la dette a été reprise par le gouvernement aussi.
Comment?
La dette a été reprise par le gouvernement, ce qui a amoindri le trou à la SNCF et qui permet à la SNCF de faire du bénéfice.
Oui, je vois pas le rapport. La dette créée par les lignes de TGV qui sont de l'infrastructure, je vous signale que l'infrastructure ferroviaire appartient pas à la SNCF, elle appartient à l'État. Donc la dette de l'État a été reprise par l'État. Je vous rappelle que les gares et les voies de ferroviaire n'appartiennent pas à la SNCF, mais appartiennent à l'État. L'État a demandé à la SNCF de construire des lignes à grande vitesse. Pour le coup, la SNCF s'est endettée, donc l'État a récupéré une partie de sa dette. Mais là, ça n'a rien à voir avec les bénéfices. Aujourd'hui, il y a
Mais vous réclamez quoi, Fabien, exactement?
Il y a un cash de dingue qui est créé par la SNCF.
Oui. On le voit bien sur le prix de nos billets, oui.
On a été, pendant deux ans, pendant toute la période du Covid, quasiment applaudi. On a même pu avoir une image positive chez les voyageurs. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on réclame notre dû. Voilà.
Donc vous réclamez une prime Covid, c'est ça, hein, Fabien ?
Non, pas forcément une prime Covid, parce qu'à un moment donné, on a ras-le-bol des primes.
Voilà. D'accord.
Prime à droite, prime à gauche. Oui. Et le jour où vous êtes malade, eh ben, vous êtes en train de pleurer parce que votre prime, vous ne l'avez pas. Nous, on réclame des augmentations générales des salaires. Moi, je vous le dis, la grille salariale de la SNCF, elle n'a pas bougé depuis 2014. Ça fait 8 ans qu'on a augmenté. Et par ailleurs, je tiens quand même à dire que si on arrive à arracher des augmentations de salaire, ça va arranger les voyageurs. Alors, vous allez rigoler, mais pourquoi ça va arranger les voyageurs ? Quand je vois qu'aujourd'hui, on supprime des TGV parce qu'on n'arrive pas à embaucher des agents matériels, quand je vois qu'en en Haute-France, on supprime des TER, et d'ailleurs, c'est ce qui crée la colère de Xavier Bertrand, parce qu'on n'arrive pas à contrôler, à embaucher des contrôleurs et des agents de conduite. Pourquoi ? Parce que le métier n'est plus suffisamment attractif. Voilà. Oui. Vu le niveau de salaire d'entrée à la SNCF, quand vous expliquez, va falloir bosser le dimanche, va falloir vous lever à 3 ou 4 heures du matin, va falloir contrôler un TER tout seul avec 350 personnes dont une partie n'a pas forcément envie que tu les contrôles. Voilà. Quand vous présentez tout ça à la SNCF et qu'en plus vous avez un salaire d'entrée qui n'est pas suffisamment élevé, vous n'arrivez pas à embaucher. Donc si nous, on se bat pour des augmentations de salaire, on rendra la SNCF attractive, et ben, on ne supprimera pas des TER comme c'est le cas aujourd'hui en Haute-France, pas qu'en Haute-France, et on ne supprimera pas des TGV parce qu'on n'arrive pas à embaucher dans les ateliers.
Alors restez bien avec nous Fabien, parce qu'on a beaucoup d'éditeurs qui nous appellent sur cette grogne qui monte partout en France, pas qu'à la SNCF. D'ailleurs, on a Eric qui nous appelle de Nîmes et qui est technicien en bureautique. Bonjour Eric.
Oui, bonjour Estelle, bonjour à tous.
Bonjour.
Eric, merci d'être avec nous. Est-ce que vous la comprenez, cette grogne qui monte et ces revendications pour des hausses de salaire ?
Alors, pour faire simple, je vais résumer. Que ce soit en matière de transport, d'avion ou de train, je trouve pas normal de bloquer le pays pour demander des augmentations de salaire. Il faudrait que ce soit interdit.
Vous interdisez les grèves alors.
Ça pose une inégalité vis-à-vis des autres salariés. Je vais vous donner un exemple. Les coiffeurs sont pas assez payés. Ils font comment? Ils vont bloquer les routes. S'ils font ça, ils se font. Vous avez compris. Oui. Ça va poser un problème. Donc là, il y a une inégalité. Je pense qu'il faudrait interdire les manifestations dans ce genre-là pour demander des augmentations de salaire. Maintenant, si les gens se trouvent qu'ils sont pas assez payés, ben il faut qu'ils trouvent un autre boulot, qu'ils soient mieux payés, tout simplement.
Oui, alors c'est pas si simple, Eric. Sinon,
c'est vrai que l'inégalité dans la capacité PDG. De nuisance, c'est un gros sujet. Il a raison, exemple, sur les coiffeurs et les coiffeuses, on est là sur une des branches les moins bien rémunérées de France, quoi.
Les plombiers, les boulangers, n'importe qui, voilà, ils font quoi pour manifester? Ils bloquent les routes.
Bien sûr.
C'est la différence entre les métiers, mais vous voyez, il y a des métiers où effectivement les grèves impactent plus, c'est pas pour ça qu'ils sont bien payés. Après, on peut comprendre qu'ils ont envie d'être payés un peu plus, quoi.
Après, il y a autre chose aussi qu'il faut penser. Alors, je n'ai jamais entendu dire sur RMC, je vais le dire. Il faut bien comprendre que le pouvoir d'achat des uns, c'est la perte du pouvoir d'achat des autres. C'est-à-dire, c'est très bien de vouloir tout augmenter. Mais je vous donne un exemple tout bête. On peut facilement doubler le salaire d'une boulangère en doublant le prix du pain. Et si on double le prix du pain, tout augmente après.
Oui, je suis d'accord.
C'est un cercle vicieux. Mmh. Mais ça, il faut que les gens le comprennent. Parce que tout le monde tire la couverture. Je vais être augmenté. Mais en faisant ça, on fait augmenter tous les prix.
Mais vous n'avez pas envie d'être augmenté, Eric ?
Pardon ?
Vous n'avez pas envie d'être augmenté, vous ?
Ah, mais moi, je gagne bien ma vie. Puis l'argent, ça ne m'intéresse pas trop, quoi.
Ah, d'accord.
Ça, c'est quand on gagne bien sa vie, quand même.
Ouais. Bah oui, non, ouais, mais attends, voilà. Après, il a le droit de. Non, mais. Bah, il est technicien en bureautique.
Oui, mais c'est plus facile de ne pas être intéressé par l'argent quand on gagne bien sa vie.
Tu peux aussi ne pas avoir envie de manifester et être satisfait de ce que tu as. Heureusement qu'il y a des gens qui sont satisfaits quand même. Il y en a peu dans ce pays.
Et c'est vrai que sur le plan économique, il a raison. Une augmentation des salaires généralisés va entraîner quelque part une hausse de l'inflation.
C'est le problème de l'inflation. Oui, mais si tu bloques les prix, tu bloques aussi les marges des entreprises. Donc c'est là où c'est hyper compliqué et que c'est vraiment. C'est pour ça qu'il faut cibler précisément les gens qui ont des difficultés.
Absolument.
Alors parmi les gens qui ont des difficultés, il y a certains retraités et parmi eux, il y a Christine qui nous appelle de la Charité-sur-Loire. Bonjour Christine.
Bonjour Estelle, bonjour l'équipe.
Ah,
bonjour.
Je vous ai déjà eu Christine.
Eh oui.
Bien
oui.
sûr. C'est la voix. Je suis très contente. Mais je suis ravie que ce soit encore vous, Christine, parce que vous êtes une des fidèles d'Estelle Midi. Christine, vous pourriez descendre dans la rue là pour justement pouvoir augmenter votre pouvoir d'achat et votre retraite, même si a priori les retraites vont être indexées sur l'inflation. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Hein.
Oui, Estelle, je vais faire vite parce que je sais que j'ai peu de temps. Oui, j'ai 67 ans, je suis prête à aller dans la rue parce que c'est se foutre du monde d'augmenter avec l'inflation de 4%. J'aurai 45 euros d'augmentation sur 1061 et je veux me battre aussi pour mes enfants et mes petits-enfants, pour tous les travailleurs. C'est un véritable scandale ce qui est en train de se passer. Moi, je vends ma maison, je peux plus subvenir à ma maison. Vous comprenez, je vais rentrer comme locataire. Je ne mange pas de viande. C'est mes filles qui m'achètent de la viande. Ce n'est plus possible de continuer comme ça. J'ai honte quand j'ai entendu Monsieur Le Maire dire on augmente de 4%, on va tout augmenter. Regardez l'APL, ils ont enlevé 5 euros, mais on est à 50 centimes d'euros près. Ils augmentent. Et alors,
ils augmentent.
Ils bloquent les loyers à 3,5%. Il appelle ça de faire un bouclier. Mais c'est une honte, ce gouvernement. Alors, ils avaient 5 ans auparavant.
Mais Christine, après, c'est terrible ce que je veux dire. Mais vous, votre retraite, elle va être augmentée de 4%. Vous avez plein de gens qui travaillent et ils ne sont jamais augmentés. Ils payent les prix des carburants. Et voilà, donc c'est 4%, c'est terrible. Mais c'est
en tant que salarié. Je me suis battue toute ma vie en tant que salarié. Allô?
Oui, vous allez écouter, Christine.
Je me suis battue toute ma vie en tant que salariée. Hein, moi, j'étais travailleur social dans les quartiers, etc. J'ai même été à la fac à 40 ans. Je me suis battue tout le temps. Je me suis battue pour les autres. Et évidemment, les retraités. Alors, moi, j'ai 1061, d'accord? Ça va me faire 40 euros. Mais je suis à la charité, dans la campagne. Il faut la voiture. On n'arrive plus à se nourrir. Je vends ma maison pour être en location parce que je peux plus subvenir. Oui. Je pense aux salariés, mais c'est pas normal ce qui est en train de se passer. Regardez l'énergie. Total fait des bénéfices énormes. Et vous voulez qu'on. Il veut quoi?
Ah bah Bruno Le Maire a demandé un effort à Total. Non, mais j'entends.
Ils veulent qu'on vive avec la bougie. Moi, je restreins ma température de chauffage. Et à l'Élysée, au fait, l'Élysée, la lumière, tout ça, ils laissent allumer, les entreprises laissent allumer la nuit. Et nous, on doit encore une fois, nous, les petits moutons, on doit encore se priver. On n'en peut plus, Estelle, on n'en peut plus.
Mais je vous entends, Christine, et j'entends votre témoignage qui est très fort. Merci beaucoup, en tout cas, Christine, d'avoir une nouvelle fois été avec nous dans Estelle Midi. Fabien Villedieu, j'ai envie de terminer avec vous parce que on entend la détresse de Christine et d'autres salariés. Est-ce que vous pensez, Fabien Villedieu, à un moment à faire une grève, allez, on va dire générale, à tous vous rassembler, pas la SNCF d'un côté, la RATP, les grandes entreprises, les dockers, essayer de faire un mouvement général?
Mais je pense qu'on va aller, c'est une première étape, ce qui va se passer le mercredi 6. Aujourd'hui, il y a un mécontentement qui est généralisé sous pouvoir d'achat. Alors effectivement, ça concerne pas tout le monde. Voilà, il y a un certain nombre de métiers avec de bons revenus. Certains même sont en télétravail.
De moins en moins.
Trois jours par semaine. C'est sûr qu'il y a un décalage par rapport aux gens qui sont à la production, qui bossent en horaire décalé, qui ont souvent des petits revenus. Et aujourd'hui, qui se bat aujourd'hui? Les grèves, elles concernent qui? Elles concernent que les chauffeurs routiers, les transports, en fait, toutes ces professions.
Non, dans les grandes entreprises aussi, hein, ça y est, là, ça commence à débrayer.
Heureusement que c'est également les grandes entreprises. Aujourd'hui, tous les salariés de la première et seconde ligne, il va y avoir une revanche sociale qui va se passer. Et d'ailleurs, cette revanche sociale, on a intérêt, la direction et également le gouvernement a intérêt à avancer de l'argent, parce qu'autrement, la difficulté qu'il y a, c'est que dans ces secteurs-là,
le gouvernement n'a plus d'argent.
On arrive. Ne vous inquiétez pas, de l'argent, il y en a.
Une revanche par rapport à quoi? Une revanche par rapport à quoi?
Parce qu'on dirait que les gens en télétravail, c'est vos ennemis, c'est-à-dire que c'est des privilégiés.
Je dis juste qu'il y a un décalage.
Vous venez de le dire.
Il y a un décalage réel. Moi, je vous le dis. Y compris qu'on peut voir à la SNCF, où effectivement, à la production, on a des gens qui sont en 3-8 et qui se retrouvent à bosser, qui sont pas en télétravail, et une partie de la population qui sont là-dessus. Donc il y a un décalage.
Dans l'industrie, il y a plein de gens qui sont au 3-8. Hein.
Comment?
Dans l'industrie, il y a plein de gens qui sont au 3-8.
Il y a une injustice sociale. Donc c'est les cadres que vous.
Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que la revanche sociale, c'est qu'il va y avoir des mobilisations sociales dans ces secteurs-là.
Écoutez-moi,
je ne veux pas faire mon Nostradamus, mais écoutez-moi, dans ces milieux-là, qui sont d'ailleurs comme par hasard les milieux où on attend pas forcément des grèves, mais on entend des problèmes de recrutement. Il y a des gros problèmes de recrutement dans les chauffeurs de bus qui font l'actualité régulièrement.
C'est vrai.
Ces milieux-là, ce sont les milieux qui vont se mobiliser. Écoutez ça. Pourquoi ils vont se mobiliser? Ils vont se mobiliser sur l'histoire de pouvoir d'achat. Parce que justement, on nous a montré nos professions comme des métiers utiles, nécessaires, et que 2 ans après, lorsqu'on s'est retrouvé, si on est utile, si on est nécessaire, quand est-ce qu'on arrête de nous payer au SMIC? Parce qu'il y a un certain nombre de professions. Quand vous rentrez à la SNCF, moi, effectivement, je suis conducteur, ça fait 22 ans que je suis à la SNCF. Oui. Quand vous rentrez à un métier de production dans les ateliers à la SNCF, vous êtes en dessous du SMIC, vous êtes obligé d'avoir des primes pour être au-dessus du SMIC.
Donc, on l'a rappelé tout à l'heure.
Ne sont pas attractifs. Oui. Donc, il va falloir que les grandes entreprises qui ont les moyens augmenter les salaires et qu'elles prennent sur leur marge. Parce qu'à chaque fois, on dit oui, mais si on augmente les salaires, on va augmenter les prix. Mais il y a également des entreprises qui ont des marges. Et il va falloir qu'elles baissent leur marge pour redistribuer à leurs salariés.
Eh ben merci beaucoup Fabien Villedieu d'avoir été avec nous. On rappelle que la SNCF sera en grève. Ce sera le 6 juillet prochain.
C'est dommage qu'ils ne fassent pas monter les gens gratuitement dans les trains, par exemple. Ça, c'est une manière de faire la grève. Je sais que c'est illégal, mais quand on fait grève, on prend des risques.
Rémi, on a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi, la grogne sociale qui monte partout en France. Seriez-vous prêt à descendre dans la rue ?
Si jamais ceux qui ont voté déjà descendent dans la rue, ça va faire du monde parce que c'est oui à 56%.
On va regarder combien de gens ont voté pour être
pour commencer
à se préparer. Dans un instant, tout autre sujet, on parlera de la proposition d'Aurore Berger, la chef des députés LREM, pour faire inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Bonne ou mauvaise idée ? Dites-nous ce que vous en pensez au 32-16. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, canal 23 avec Rémi Barré, Perico Légas, Laure Clausier et Thierry Moreau. Et on va tout de suite dans Estelle Midi s'intéresser à la proposition du jour. C'est celle d'Aurore Berger, la chef des députés LREM, pour faire inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française. Rémi Barré, concrètement, ça changerait quoi ?
Bien, cela permettrait de mettre ce droit un peu plus à l'abri de toute éventuelle tentative de revenir sur son principe. Très concrètement, si le droit à l'avortement était inscrit dans la Constitution, il deviendrait un droit à part entière, alors que, selon les spécialistes du droit, aujourd'hui, le recours à l'IVG, c'est plutôt une tolérance encadrée par une réglementation des délais. Une autorisation qui dépend de la seule volonté du politique et du Parlement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y avait un jour un gouvernement ou une majorité parlementaire qui décidait de revenir sur ce droit, ça pourrait être tout à fait possible, comme ça s'est passé, même si les choses sont différentes aux États-Unis, là c'est le Congrès américain, mais ça s'est passé comme ça aux États-Unis. Donc là, si ce droit était inscrit dans la Constitution, ça serait beaucoup plus compliqué, il faudrait revenir sur la Constitution, ce qui est complexe, ça prend beaucoup de temps. C'est donc le sens de ce que veut faire Aurore Berger, soutenue dans sa démarche par la Première Ministre Elisabeth Borne, mais aussi par le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, par la France Insoumise ou encore par Europe Écologie Les Verts. D'autres voix, en revanche, s'interrogent. Marine Le Pen n'exclut pas de voter ce texte, mais elle se demande s'il y a vraiment urgence, tout comme d'ailleurs le président du Modem, François Bayrou, qui juge qu'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, peut-être d'ailleurs qu'il faudrait passer pour ça par un référendum, eh bien n'est pas bien utile en ce moment, alors que le pays a bien d'autres questions à traiter.
Bonne ou mauvaise idée d'inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française ? Je vais commencer avec vous, Laure Clausier.
Je suis pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit à quel point c'est allé vite aux États-Unis et à quel point rien n'est acquis. La deuxième, c'est que effectivement, si Marine Le Pen n'est pas officiellement, en tout cas, ne s'exprime pas en étant anti-IVG, il y a aujourd'hui dans l'Assemblée nationale des membres du RN qui sont rentrés et qui sont ouvertement anti-IVG. Il y a par exemple Caroline Parmentier qui est députée du Pas-de-Calais. Elle disait il y a 200 000 génocides par an,
ça représente
en parlant des 200 000 IVG par an. D'accord, mais elle est au Parlement.
Elle a été élue,
ce qui veut dire qu'il y a des gens en France qui partagent ses idées, qui votent pour elle et qui considèrent qu'elle a sa place dans une assemblée. Donc effectivement, je suis pour, même s'il y a aujourd'hui d'autres sujets fondamentaux, je ne vois pas en quoi c'est un argument. C'est-à-dire, je vois pas
parce que tu vas faire un référendum et est-ce qu'aujourd'hui c'est la priorité ?
Ok, on va ouvrir un débat à l'Assemblée, on va discuter de ça, mais on va remettre ça sur
alors
la table.
Alors qu'aujourd'hui, il y a pas de débat.
À quel point c'est
l'IVG, il y a aucun souci, il y a pas de débat. On vient juste d'allonger le délai à 14 semaines.
Il y a pas de débat.
Alors il y a pas de débat. Tout le monde. Enfin, il y a quand même très peu de gens qui sont anti-avortement.
Excusez-moi, hier encore, il y avait l'ancienne porte-parole du FM qui s'appelle Laure Lavalette, nouvelle députée fraîchement élue, qui a signé un texte il y a quelques années en disant « Nous reviendrons, nous promettons d'abroger la loi sur l'avortement ». Donc il y a évidemment que pour arriver au pouvoir, ces gens-là...
Là, tu me parles de deux députés sur 577.
Alors, il y a une faille dans votre raisonnement, si je puis me permettre, Christelle. C'est que pour arriver au pouvoir, évidemment qu'ils ne vont pas mettre ça en avant. Une fois qu'ils sont au pouvoir... Peut-être que leur majorité parlementaire les poussera à le faire. C'est ça qui est dangereux. Donc il faut. Alors évidemment, il n'y a pas une urgence à la semaine, mais il est important de le faire pendant cette mandature, justement. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, enfin, je pense que c'est factuel. Il n'y a pas besoin de référendum. Il suffit d'un congrès. Et là, apparemment, il y a consensus. Profitons au moins de ce consensus là maintenant pour que les deux assemblées se réunissent et modifient la constitution sans référendum.
C'est qu'aujourd'hui, les anti-avortements, tu les entends pas.
Si jamais.
Mais bien sûr qu'on les entend, Ludivine de la Recherche. Jamais. Bah, excusez-moi, Ludivine de la Recherche.
Elle a été chercher au fin fond d'Internet. Mais, enfin, sinon,
mais pas du tout. Elle était sur une chaîne Toute Info hier et elle a dit il ne faut pas rajouter avec un avortement un drame à un drame. C'est exactement la dialectique.
Tu les entends quasiment pas. Si tu fais un débat, tu vas les entendre 10 fois plus. Et ils risquent en plus, je veux dire, d'arriver à choper des gens qui sont indécis. Bon, c'est ça qui me gêne, c'est que tu vas les entendre beaucoup plus que ce que.
Mais t'as vu qu'elles sont fragiles. Ça veut dire que tu dis c'est un acquis qui est tellement fragile qu'il faut pas réveiller les gens qui sont contre.
Non, pour moi c'est un acquis qui est extrêmement fort et tant mieux, encore heureux. Mais est-ce qu'il y a besoin de l'inscrire dans la Constitution? Moi je me pose la question. Est-ce qu'il y a besoin d'entendre des gens qui vont aller expliquer pourquoi l'avortement c'est pas bien, etc. Parce que va y avoir des débats là-dessus. Ben quelque part,
j'avoue que franchement, moi ça me rassurerait pour mes filles et pour l'avenir.
Bah oui.
Le droit à l'avortement n'est pas un enjeu constitutionnel. C'est un enjeu social, c'est un enjeu de droit public. La Constitution, elle est là pour définir les libertés fondamentales d'une société dans un État. Voilà. Mais alors, comme on est totalement intoxiqué par la propagande américaine, comme la Cour suprême, qui est à la fois Conseil constitutionnel, Cour de cassation et Conseil d'État, c'est hallucinant, avec des pouvoirs juridictionnels dans le droit anglo-saxon, on n'a rien à voir. On est dans un droit politique. La majorité de l'Assemblée nationale fait les lois et on met dans la Constitution des choses qui sont fondamentales pour la pérennité de la société.
Pas la peine de mort, par exemple.
Pas la peine de mort, bien entendu. Et là, on mélange tout parce que justement, on est dans une forme d'ignorance juridique. Alors, c'est pas à moi de définir ici ce qu'est le droit.
Non, mais tu peux définir ce que c'est qu'une liberté fondamentale.
En France, est la loi la plus protégée. Il y a un encadrement qui est quasi constitutionnel quand on regarde bien les textes. Personne ne veut leur mettre en cause, même les gens, mais on aura toujours des voix. Mais pour établir la peine de mort,
on peut quand même jouer sur les délais, on peut jouer sur les conditions d'accès
alors
à l'avortement.
Je vais faire une attaque personnelle. Le fait que ça vienne d'Aurore Berger déjà disqualifie totalement cette mesure parce que cette personne n'a jamais su que.
Mais toi, quand tu dis ça, ça disqualifie tout ce que tu as dit avant.
Peu importe. Ce que je veux dire, c'est que là, ce sont des gens vraiment, nous sommes confrontés dans ce pays à des enjeux beaucoup plus graves. Personne là, à part deux députés, il y a aussi des gens qui veulent reconquérir l'Algérie. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est absurde. On est en train de soulever un problème pour masquer. Et Aurore Berger, qui est là pour masquer le fait que cette majorité n'arrive pas à trouver la formation d'un gouvernement, elle a trouvé Thierry Moreau et Laure Clausier pour dire regardez ce qui se passe. Voilà. Pendant ce temps-là, on ne parle pas du reste. Vous êtes tombé dans le panneau. C'est votre droit, vous êtes jeune. Vous êtes jeune et inexpérimenté.
Évidemment qu'elle rebondit sur ce qui s'est passé aux États-Unis. Évidemment,
mais ça n'a rien à voir.
Est-ce que c'est pour masquer?
Ce n'est pas comparable.
Est-ce que c'est pour masquer les autres problèmes?
Mais oui.
Dans 3 jours, les autres problèmes, ils vont arriver.
Bien sûr, mais écoute, elle a gagné. Elle a divisé la majorité.
Ce qui se passe aux États-Unis marque profondément chacun d'entre nous et se dit si j'étais américain aujourd'hui.
Ce n'est pas la même règle du jeu. Ça ne peut pas arriver.
C'est pas la question.
Avant qu'on remette l'avortement en France, les conditions politiques seraient telles qu'il y aurait des problèmes bien plus graves qui sont survenus. Donc dormez tranquille. Le droit à l'interruption volontaire de grossesse, il est garanti. Et nos deux arrière-petites filles, jusqu'à là, le feront. Par contre. Si on le met dans la Constitution, il faudra mettre une date, faudra mettre un délai. Tu vas mettre dans la Constitution 14, peut-être 16 semaines du coup, et pourquoi pas 18, et puis 20 ou 22 pendant qu'on y est, hein, parce qu'il y aura toujours des gens pour dire que c'est pas
assez. Qu'est-ce que tu mets derrière liberté fondamentale, puisque du coup tu fais une liste en disant l'avortement n'en fait pas partie. Qu'est-ce que tu mets dedans?
Les droits citoyens fondamentaux de ce qui constitue la République. La laïcité n'est pas constitutionnelle. C'est une loi sociale, et d'ailleurs la laïcité, on en débat aujourd'hui, elle est menacée, elle n'est pas menacée, personne n'a dit on va inscrire la laïcité, elle est quelque part.
Y a des gens qui
parce qu'elle est marquée République sociale et laïque, c'est un débat de société, d'organisation. Et si un jour une majorité du peuple français décide qu'il faut repenser, là, sans aller jusqu'à le supprimer, mais que 14, faut peut-être revenir à 10 semaines, eh ben on viendra à 10 semaines, et ça sera la volonté du peuple français, et on fermera sa gueule, parce que le peuple est souverain. Et on n'en est pas là, merci Estelle, évidemment.
Alors, on est avec Benjamin Morel, maître de conférence à Paris Panthéon. Ça, c'est docteur en sciences politiques. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous, Benjamin. On se pose la question, est-ce qu'il faut inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution française? Est-ce que franchement, c'est une priorité aujourd'hui pour le gouvernement, pour vous?
Ça me laisse extrêmement sceptique, et pour 3 séries de raisons en réalité. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'entendais l'un d'entre vous dire il n'y aura pas besoin de référendum. En fait, si. C'est-à-dire que si ça passe par une proposition de loi, il faut faire un référendum. On ne peut réunir le Congrès que s'il y a un projet de loi. Donc c'est un peu technique, un peu constitutionnel, mais du coup, ça impliquerait de passer par la case référendaire, ce qui en fait donnerait une voix aux anti-avortements extrêmement important, paradoxalement. Et donc, paradoxalement, on risque là, pour le coup, d'avoir une tension politique sur un sujet qui, aujourd'hui, aujourd'hui, quand même, dans la vie politique française, est relativement consensuel. Le deuxième élément, c'est qu'en fait, on parlait tout à l'heure notamment des délais, etc. Il faut voir que si vous mettez quelque chose dans la Constitution, vous faites du juge l'arbitre des élégants, et que ça va être le Conseil constitutionnel qui, tout d'un coup, eh bien, va donner une portée à ce droit. Alors, on ne pourra pas, évidemment, interdire l'avortement, mais qu'est-ce que ça signifie autoriser, interdire l'avortement en termes de délai, etc. Tout ça, en fait, on vide le Parlement de sa capacité à délibérer sur ce sujet-là pour le transférer à un juge dont la légitimité et l'expertise sur ce sujet-là, eh bien, n'a pas vraiment plus de légitimité que celui du Parlement. Et ensuite, on mésinterprète fondamentalement, c'est mon troisième point, la décision américaine de la Cour suprême aux États-Unis. En fait, la Cour suprême américaine n'a jamais interdit l'avortement. Elle a laissé le choix aux États d'interdire ou d'autoriser l'avortement. Donc, on a un système aux États-Unis où vous avez des États très très conservateurs, des États qui sont plus progressistes, etc. Et dès le moment où vous déléguez aux États, ben, en effet, vous avez des microcosmes conservateurs qui peuvent, dans le Missouri, au Texas, etc., faire ce choix-là. En France, l'idée que, comme ça, on pourrait déléguer à un territoire la possibilité de légiférer sur l'avortement est évidemment tout à fait fou. Ça, c'est absolument pas envisageable, etc. Donc, on n'est pas du tout dans cette perspective-là. Il est très très peu probable au niveau national que demain se dégage un consensus national pour interdire l'avortement. Et oui. Pour ces raisons-là, gardons raison.
Est-ce que vous ne croyez pas aussi, Benjamin Morel, que quelque part, c'est un peu électoraliste, même s'il n'y a plus d'élection, là, mais de la part d'Aurore Berger, c'est-à-dire que finalement, elle sait qu'elle va s'attirer forcément les bonnes grâces des jeunes, notamment des femmes, alors que ça a très peu de chances de passer, et que finalement, je veux dire, aujourd'hui, l'avortement en France, il est légal, personne ne se pose la question sur l'avortement, alors même que les délais ont été allongés.
Oui, mais politiquement, c'est assez habile, c'est-à-dire que ça permet à la fois pour la majorité, enfin pour le connaissance, du coup, il n'y a plus vraiment de majorité, mais de montrer que il y a des initiatives, il y a un volontarisme, y compris dans le domaine constitutionnel, alors qu'on sait très bien qu'il va être extrêmement dur de faire une quelconque révision constitutionnelle durant ces 5 prochaines années au vu de l'état du Parlement, et qui plus est, ça permet de diviser les oppositions ou bien de les pointer, parce qu'évidemment, vous avez une partie des oppositions qui, par rapport aux arguments que je viens de développer, notamment sur l'état de droit, la place du juge, sont en délicatesse avec cette idée-là. Donc, mais en même temps, expliquer que vous êtes contre la constitutionnalisation de l'avortement, évidemment, c'est délicat, je dirais, du point de vue du débat public. Donc, ça
va vous traiter de réac tout de suite.
Exactement. Le problème, évidemment, et ce que peut-être Aurore Berger n'avait pas prévu, c'est que cette crise dans les rangs même de la majorité, on pense évidemment à François Bayrou, et qu'à partir de là, ça peut créer des vagues, y compris au sein de l'ensemble.
Oui, alors que personne ne se posait la question avant. Quoi.
Donc, ça, c'est le principe de l'actualité. Quoi.
Mais oui, mais tu vas avoir des gens, c'est un sujet, alors que ce n'était pas prévu.
Et en quoi parler de l'avortement aujourd'hui, ça t'empêche de traiter la problématique du pouvoir d'achat et du gaz. Tu vois,
c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, encore une fois, là, François Bayrou, il te dit, moi, je suis pas trop pour. Alors là, tu vas avoir des gens qui vont t'expliquer qu'ils sont pas pour.
On rouvre le débat. On rouvre le débat de 75.
Exactement.
C'est une fouteuse de merde. Aurore Berger est une fouteuse de merde professionnelle. Il y avait une loi sur l'enseignement des langues régionales qui a été votée par l'Assemblée nationale, y compris son parti. Elle a réussi à faire un recours au Conseil constitutionnel qui a invalidé la loi. C'est la spécialiste du torpillage. En fait, elle est là juste pour empêcher les choses de fonctionner parce qu'elle a besoin de faire parler d'elle.
Il y a peut-être une belle idée derrière quand même. Faut pas exagérer.
Mais comme par hasard aujourd'hui, au mois de juin 2022.
Mais parce qu'il y a des États-Unis le matin.
Donc nous sommes dépendants du droit américain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que ce niveau d'ignorance des institutions? C'est affligeant. C'est affligeant. Ce débat est affligeant.
Rémi, vous avez plein de messages sur l'application.
Exactement, et notamment ce message de Bastien. IVG dans la Constitution, nous dit-il, si opposé, serait interprété comme une attaque contre les femmes, mais sérieusement, qu'est-ce que ça apportera, à part de confirmer notre peur de la démocratie? L'IVG est un acte qui n'est pas anodin, il faut l'admettre et ne pas en faire un totem. Arrêtons de cliver entre progressistes et méchants, travaillons sur la contraception, et oui, on peut être sceptique sur le nouveau report de la limite à l'IVG, et être,
mais c'est un totem.
Et être pour l'IVG.
Mais c'est un totem, mais aujourd'hui,
c'est justement un totem.
Mais aujourd'hui, il n'y a aucun risque, encore une fois. Oui, tu me parles de deux députés.
Je te parle des États-Unis il y a 10 ans, qui étaient très loin.
Mais les États-Unis n'ont pas le même système.
J'ai bien compris que les États-Unis n'étaient pas structurés pareil. Mais je te dis juste que ça fout les jetons. Franchement, ça fout
aux
les
États-Unis,
jetons.
Aux États-Unis,
moi, ça me fout les jetons de sortir le diable de sa boîte, là.
Aux États-Unis.
Tout à l'heure nous dit il est très peu probable qu'un jour on revienne sur ce droit. Il était aussi très peu probable qu'on ait 90 députés RN à la
Aux États-Unis. Aux États-Unis, le burkini est autorisé, c'est la norme, c'est un pays confessionnel et religieux. Ils s'en foutent complètement. Nous, c'est un problème de laïcité. qu'on dit problème de d'avortement, pour nous c'est acquis, il y a pas de problème, personne ne remettra en cause.
Mais il est en France ce droit.
Mais non, bien sûr que non, c'est pas la même lecture du droit et de la politique. C'est hallucinant. Si vous étiez vraiment des vrais défenseurs d'avortement, vous feriez en sorte que les femmes aient le moins besoin d'y recourir. Ça, c'est un vrai combat. L'avortement, c'est un aveu d'échec. C'est en cas d'extrême. Mais bien sûr que le droit de la femme, d'abord, c'est de ne pas avoir.
Non, le droit de la femme, c'est de choisir.
Bien sûr, mais et surtout de faire en sorte de ne pas avoir.
On a dit qu'un avortement n'était pas dramatique.
Le choix est garanti.
Et à titre personnel. Mais ça reste la question du choix. C'est ça qui est important.
Heureusement, et le combat, il est là. Sauf que le vrai choix, c'est aussi de ne pas avoir à recourir à l'avortement. Voilà.
Mais d'accord, enfin, ça.
La vie, elle n'est pas linéaire. Tu me fous encore plus les jetons, tu vois.
Non.
Cette position-là, c'est revenir 30 ans en arrière.
Je reprends les termes de Simone Veil, qui était la plus grande défenseuse. Le fait d'avorter pour une femme est toujours un traumatisme.
Évidemment,
on est d'accord là-dessus. Mais le vrai, mais non, on ne le prend pas comme un droit acquis et comme si c'était la solution. La solution, c'est que la femme, au départ, puisse avoir dans la liberté de son choix, bien entendu, le fait de ne pas avoir à y recourir.
Il y a des femmes qui sont. Si tu te fais violer, c'est vrai que ça se.
Ah non, mais
il y en a plein.
Il n'y a pas de problème. Je parle de celle qui.
Il n'y a pas de problème. Non, de toute façon, l'avortement, c'est non. Il n'y a pas de problème.
Quand on est une fillette et qu'on est enceinte de son violeur, on doit le garder.
Ça ouvre la porte à tous les excès.
Ça, c'est indéfendable.
Cette position-là de dire on devrait agir en amont pour pas avoir besoin.
Non, je dis que c'est aussi ça.
La porte ouverte
à tous
les abus.
Je dis que la partie éducative est tout ce qui est essentiel que la partie du droit et de la protection, évidemment.
Oui, enfin, c'est d'abord une histoire de choix et
évidemment.
Mais celui-là, il est acquis, personne ne le mettra en cause.
Mais bien sûr que si.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu mens. Bon. Tu sais très bien que personne ne le mettra en cause.
Non, aujourd'hui,
c'est
en
un
France,
besoin de débat qui cache un autre débat.
En tout cas, tenez, on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce qu'il faut inscrire l'IVG dans la Constitution, Rémi ?
Eh bien, s'il si, y avait référendum, en tout cas pour ceux qui ont voté sur nos réseaux sociaux, c'est le oui qui l'emporterait à 55%.
Non, c'est pas tout à fait pareil. Le oui pourrait l'emporter à 98%. Là, c'est juste est-ce qu'il le faut dans la Constitution ?
Absolument. Non,
s'il y avait un référendum,
tu vois. Oui, tu as raison. Oui. En tout cas, si on posait la question aujourd'hui,
est-ce qu'il faut. Pas dire que c'est 50-50.
Non, mais est-ce qu'il faut.
Daniel Riolo dirait que la question est mal posée.
Oui, c'est ça.
Non, mais tu as raison.
Merci, Rémi. Allez, dans un instant. On vous donnera des solutions. Vous savez, pour ceux qui ont du mal à se réveiller le matin, qui ont des problèmes de réveil, eh bien, sachez qu'il existe désormais des réveils révolutionnaires. Anthony Morel viendra nous en parler dans un instant. À tout de suite. Il est 12h51, vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure d'accueillir Anthony Morel.
RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Anthony, aujourd'hui, vous venez avec des solutions pour ceux qui ont du mal à se réveiller le matin. Vous avez, vous, des réveils révolutionnaires.
Exactement. Je ne sais pas si vous êtes du genre autour de la table à appuyer 10 fois sur le rappelle-moi dans 5 minutes, là, le snooze.
Là, on ça est comme pique ça. Un peu, là.
Ouais, ça pique un peu. Il y a un moment, on se rend compte qu'on devrait être au boulot depuis un quart d'heure et c'est problématique, évidemment.
Voir une demi-heure.
Donc, il y a des réveils intelligents, comme à chaque fois qu'ils sont en train d'arriver. On leur ajoute plein de fonctionnalités qu'ils n'avaient pas jusque-là. Par exemple, des réveils qui vont être capables d'analyser votre sommeil et de vous donner des conseils pour mieux dormir et pour mieux vous réveiller. Alors il y a Google et Amazon qui proposent des modèles comme ça. Alors est-ce qu'on a envie de confier notre sommeil à des géants de la tech américains ? Ça c'est une autre question. Mais c'est des réveils qui sont équipés de petits capteurs, de petits micros qui vont analyser tous les mouvements pendant la nuit, la respiration, dans le réveil directement, dans le réveil. Donc ils analysent vos respirations, la toux, les ronflements, la luminosité ambiante, tout ce qui peut gêner tous les bruits, tout ce qui se passe pendant la nuit.
Et si on fait du sport en chambre, ça
si vous faites du sport, c'est analysé aussi, ça fait partie du truc. Voilà.
C'est Google qui a votre enregistrement. Non mais ça fait
surtout quand vous dormez.
Ça nous donne vraiment envie. Merci, Anthony.
C'est surtout quand vous dormez que c'est intéressant. Non, c'est sûr. Vous pouvez. Je précise, c'est comme les enceintes intelligentes, vous pouvez les désactiver aussi
si vous
voulez.
On y croit.
Oui, c'est
sûr que tu vas y penser. Dis,
Ne bouge pas.
Faut pas oublier. Non, mais tout ça pour vous dire, à la fin, vous avez un petit compte rendu. On vous dit à quelle heure vous devriez vous coucher ou vous réveiller. Des fois, ça.
C'était chaud.
Non, parce que des fois, ça joue à quelques minutes près pour.
Oui.
C'est très important.
Problème.
Bon, alors, autre option, si vous aimez pas les réveils connectés, vous avez les réveils. Sensoriel. C'est-à-dire, on va plus seulement utiliser votre ouïe, le réveil strident, mais on va utiliser, réveil lumineux, ça existe depuis des années.
Ça, c'est bien.
Ça, c'est pas mal, ça fonctionne bien. Réveil olfactif. Moi, mon préféré, c'est un réveil qui s'appelle le Brewing Alarm Clock. Donc, c'est le réveil cafetière, littéralement. Et c'est exactement ça. En fait, c'est une cafetière qui est embarquée dans le réveil. Et donc, vous mettez votre réveil à 7 heures.
Il faut avoir une grande table de nuit. Hein.
Non, mais c'est génial. Non, mais ça prend pas tant de place que ça, en fait. Et ça se met à fonctionner. La cafetière se met à percoler. Et vous allez être réveillé par une bonne odeur de café et par un espresso bien chaud. Voilà, pile au moment de
votre réveil. Il faut avoir une cafetière dans sa chambre.
Ah, bah, c'est un réveil. La cafetière est intégrée dans le réveil. Attendez, c'est génial. Mais si, c'est pas mal. Bah, si, c'est bien. Vous êtes réveillé par l'odeur, plus par le bruit. Oui, il y a un petit côté.
Il faut avoir un peu d'odorat, tu es d'accord.
Il faut avoir un petit peu d'odorat. Mais il y a du bruit aussi.
Bon, ça, c'est des méthodes douces. Mais ceux qui ont vraiment, Tony, des problèmes pour se réveiller, est-ce qu'il y a une méthode dure?
Alors là, il y a les réveils impitoyables. Alors, qui sont assez gadgets, et moi, j'aime beaucoup. Par exemple, vous avez le Clocky. Le Clocky, c'est un réveil robotique. C'est-à-dire qu'il sonne, mais non seulement il sonne, mais il se barre de la table de nuit. Il s'enfuit. Voilà, il est monté sur roulette.
Il aime gratter les pieds.
Et donc, il faut le poursuivre dans la chambre. Voilà, le but, c'est de le rattraper. Tant que vous ne le rattrapez pas, évidemment, voilà. Et ben, il s'arrête pas de sonner. Alors, vous avez la même version avec un drone, hein, même chose, il s'envole, et donc, faut courir partout après dans la chambre. Bon, pourquoi pas. Et alors, la version la plus impitoyable, la plus stupide aussi. Il est même pas commercialisé celui-ci, mais c'est juste pour vous le montrer. C'est un réveil qui s'appelle le shredder, donc le déchiqueteur. En fait, il embarque une déchiqueteuse. Donc vous mettez, le principe, c'est que le soir avant de vous coucher, vous mettez un billet sur ce réveil. Il se met à sonner, un billet de banque, et il se met à sonner. Si vous ne vous réveillez pas suffisamment, enfin, si vous ne vous réveillez pas à temps, il déchire le billet.
Donc il achète ton réveil. Il y a des gens qui ont pensé à ça.
Il y a des gens qui ont pensé à ça. C'est pas commercialisé. Je dis, c'est un peu débile. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ça fait cher, exactement.
Et alors pour ceux qui, comme moi, utilisent leur smartphone comme réveil, qu'est-ce qu'on fait?
Alors il y a plein d'applications et toujours dans cette logique des réveils impitoyables, il y en a une que je vous conseille qui s'appelle Alarmy, donc alarme avec un Y à la fin. Et alors là, le principe est encore une fois assez redoutable, c'est-à-dire on va vous demander, quand vous téléchargez l'application, de prendre en photo un objet dans votre maison, n'importe quel objet, une corbeille de fruits, n'importe. Et quand votre réveil sonne, eh ben, il faut que vous alliez prendre la même photo. Sinon, il ne s'arrête pas de sonner. Donc, faut que vous alliez. Alors voilà, c'est si vous prenez en photo un objet qui est loin de votre chambre, vous êtes mal.
D'accord. Et si je me suis tapé la corbeille de fruits à 1h du matin et que ma femme se lève pour la photo,
il ne s'arrête plus. Alors, il y a d'autres options.
C'est quand même embêtant.
Ça, c'est l'option photo, mais vous avez aussi une option. Alors moi,
chérie, t'as bu le coca dans le frigo?
La banane. Voilà. Raté.
C'est pas possible.
Autre option, c'est une petite opération de calcul mental qu'on vous demande de faire le matin en vous réveillant. Bah oui, mais ça te force, voilà, à t'éveiller l'esprit très rapidement, et voilà, et comme
c'est
ça.
C'est quoi le calcul mental?
C'est Alarmy, c'est la même. En fait, vous avez plusieurs options. Vous choisissez la photo, le calcul mental ou secouer aussi. On vous demande de secouer le téléphone.
Tac, tac.
Non, il n'y a pas encore la décharge électrique. Ce sera sûrement sur une prochaine chronique.
Merci beaucoup, Anthony Morel. Tous les jours, midi 50 dans Estelle Midi. Dans un instant, on parlera de l'appel des patrons d'Engie, d'EDF et de Total. Ils demandent aux Français de réduire immédiatement leur consommation d'énergie. Est-ce que c'est indécent, cette demande? Dites-nous tout au 32-16. À tout de suite.
RMC, midi 15h,
Estelle Midi.